Allô, excusez-moi, j'ai dû. I disconnected because I couldn't turn on my microphone. Bonjour à tous, on reprend. Comment allez-vous? Lynn, tu as un fond magnifique. Alors, hop. Ça y est, tout le monde est là. J'ai mes slides en face de moi. Je vois Lynn dans son joli fond. Voilà, alors, qui est là? Bonjour, Barbara est là, bonjour Curtis, bonjour Jack, toujours à la maison, j'espère que tout va bien pour toi. Bonjour Jim, bonjour Kat, bonjour Lothar en Suisse, bonjour Marie Kelly, bonjour Nick avec une magnifique bibliothèque aussi. Shannon vient d'arriver, Steve et Bruce qui viennent nous rejoindre, bonjour à tous. So if this is your first salon, I speak French for an hour. If you need any kind of help, use the chat. And can I see the chat? Every time. Ça y est, je vois le chat. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur un truc auquel j'ai pensé. Ça fait plusieurs semaines que j'y pense. Je vais partager mon écran. Hop. Ça y est, top, voilà. Bonjour Curtis. C'est en fait, c'est travailler sur une conversation du quotidien. Parce que j'y pense souvent quand je vous fais un cours, je partage avec vous des idées, des expressions, parfois des ressources culturelles. Et en fait, je me suis dit que ce serait plus intelligent de partir d'une conversation que j'ai avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est pas important, et en fait qu'on analyse ensemble les mots qui sont utilisés, les expressions. D'accord? On a eu des très bons devoirs cette fois-ci, enfin, on a toujours des très bons devoirs, mais il y avait des devoirs sur les livres, et donc je voudrais prendre un peu de temps pour les corriger, et j'ai aussi eu des questions qui vont mériter de s'arrêter un peu, de prendre du temps. Sur la cursive de Kelly, Lynn, sur les mots de locution et Marie sur le on. Steve qui avait une suggestion à partager avec vous, une chanson. Mais voilà, je voulais prendre un petit peu de temps pour en parler. Il y a des choses dont on a déjà parlé, mais aller un petit peu en détail. Et la question que déjà qu'on se pose à chaque fois, c'est qu'est-ce que tu as appris la dernière fois? La dernière fois, on avait essentiellement fait la correction des devoirs. Parce qu'on avait travaillé sur attendre et je voulais vous donner des corrections, je voulais vous donner des exemples, je voulais vous donner d'autres façons de le dire. On avait revu des expressions aussi. Alors, de quoi vous vous souvenez la dernière fois? Je sais qu'on a l'impression de se répéter, mais ça permet d'activer le cerveau et de se souvenir d'une fois sur l'autre de quoi on a parlé. Alors, j'attends de voir, wait and see, dit Mary Kelly, tout à fait. Donc, attendre de voir, c'est vraiment pas forcément voir avec les yeux. Ça peut être de voir, d'estimer comment une situation évolue, ce genre de choses. Je viens de tourner la vidéo pour demain et j'ai super soif. Demain, on va faire un petit. On teste un nouveau format pour la vidéo sur YouTube. Vous me direz ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez, ça m'intéresse. On va faire un truc. Qui est un peu comme le 30-day challenge avec beaucoup de repeat after me et des détails de prononciation. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, attendre de voir, wait and see. Être censé plus infinitif. Donc, c'est to be supposed to. D'accord? Être censé plus infinitif. Par exemple, le train est censé partir. J'enlève ça. Est censé partir à midi. D'accord? Supposed noon. Attendre de voir, donc c'est wait and see. Par exemple, j'attends de voir comment le spectacle, le festival se passe pour m'inscrire. D'accord? Kelly, Marie Kelly dit d'une traite, tout à fait. Donc c'est d'une traite, c'est in one go. Par exemple, j'ai lu ce livre d'une traite. On peut dire aussi, il a bu sa bière d'une traite. Il devait avoir très soif. Être sensé, tout à fait. Jack, ça ne m'étonne pas que tu aies noté ça. C'est quelque chose de subtil. C'est une faute que font beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Être sensé, c'est avoir du sens. Par exemple, on peut dire sensé, être insensé. C'est sensé de... Il est censé de prendre son billet de train en période de vacances. D'accord? Donc, attention, parce que dans mon exemple, voilà, même Google, il a peur que je me trompe. Il, c'est it is. D'accord? Ici, ce n'est pas he is. Là, Google essaye de me faire dire « he is supposed to take ». Là, c'est « it makes sense to take your train ticket in advance when it is a holiday season ». D'accord ? Voilà. Donc, on a vu quelques trucs ensemble, c'est très bien. Donc, on avait vu « attendre ». Ah, Nick demande « est-ce qu'il y a une différence entre l'assistante matérielle et la nounou ?» Oui. Enfin, non, en fait. L'assistante maternelle, en théorie, c'est le nom de la personne qui a le diplôme. D'accord ? Et la nounou, c'est le nom affectif pour ça. Bonjour Lynn, pas de problème, on vient de commencer. Donc, assistante maternelle is the name for the people who have the diploma, the degree, which is the official title, the person we pay. But the la nounou is like nanny. It is not a title at all. It is the person who takes care of you, who is not your family, okay? So the nanny could have a diploma, or it can be the next door neighbor who takes care of you every day, okay? It is most of the time the same, but not always. Le français adore créer des mots compliqués pour donner des titres. Ça, c'est très commun. Par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous ont voyagé en France dans les années 70-80, en ce moment, on dit l'office du tourisme, d'accord, pour dire « the tourist office ». Et avant, on disait le syndicat d'initiative. Et la grand-mère de mon conjoint a vécu plus longtemps que ma grand-mère. Et du coup, quand on la voyait pour partir en vacances, elle disait encore le mot « syndicat d'initiative ». Mais c'est vraiment un truc que vous pouvez entendre chez certaines personnes ou alors des anciens panneaux. Et voilà, on aime bien avoir des mots compliqués. Le syndicat d'initiative pour l'office du tourisme. D'accord ? Mais ça, ce n'est pas un mot qu'il faut apprendre. C'est juste si vous le voyez sur un panneau, vous verrez que c'est quelque chose de plus ancien. Il y avait vraiment une mode, on dirait, après la Seconde Guerre mondiale, de créer des titres compliqués pour des choses qui sont assez simples, d'accord ? Typiquement, l'assistante maternelle, enfin, c'est vraiment bizarre. C'est comme mot, c'est vraiment compliqué. J'ai pensé que Nounou était un animal en peluche. Non, c'est Doudou. On a déjà fait un cours sur les mots de l'enfance. On pourra en refaire un dans quelques semaines ou mois. Un doudou, c'est peu importe ce que c'est ce que l'enfant aime avoir avec lui pour dormir ou pour quand il est triste. Donc ça peut être un tissu, ça peut être une peluche, d'accord, d'enfant. Une nounou, c'est une nourrice. Et doudou, ça vient de doux. D'accord, c'est soft. En fait, je ne sais pas si vous avez ça en anglais, mais en français, quand on veut créer des mots qui sont liés à l'enfance, on va en général doubler la syllabe. Doubler la syllabe. Donc, par exemple, doux, c'est soft. Un doudou, c'est... comment vous dites the thing that the children sleep with, like the stuffed animal or the piece of cloth. or a t-shirt from you. That's the state that they use all the time. Blankie. Okay, yeah, that can be, yeah, that I don't know if this is a name for all the English speaking world, but it really rings a bell. Security blanket. But it can be for French people, it can also be a stuffed animal. It's the thing that you sleep with like that when you're a child. So absolutely. Par exemple, le dodo, c'est le sommeil. C'est parce que dormir, c'est parce que c'est le verbe dormir. Donc en fait, on a plein de mots comme ça qu'on va créer en doublant la syllabe. Voilà. J'ai comforter aussi. Probablement, donc c'est tout cet ensemble de trucs, d'objets. Et ça, ce sont les mots de l'enfance. Pas forcément de l'enfance, parce qu'on a nana aussi. Mais doubler la syllabe initiale, c'est quelque chose de très classique pour créer des mots du quotidien. Par exemple, un bobo. C'est une blessure. D'accord ? Ça, c'est des choses qu'il faut connaître. C'est vraiment important de les connaître parce qu'ils sont tellement ancrés dans le langage qu'ils vont être utilisés un peu partout. Est-ce que je peux vous mettre ? Voilà. Ils sont utilisés un petit peu partout et on ne pense jamais à les expliquer. Alors, ok, boubou, dit Steve et Marie. Oui, bah c'est quelque chose comme ça. Métro, boulot, dodo. Attention, Steve, c'est boulot et pas bulot. Bulot, c'est un coquillage qu'on mange. Alors, aujourd'hui, donc, j'ai pris une conversation avec une amie. Enfin, il y en a deux dans l'histoire. Et c'est vraiment pour vous montrer des choses qu'on va utiliser spontanément au quotidien, sans que ça soit vulgaire ou enfin, des choses que vous ne pouvez pas utiliser, pour vous montrer en fait quel genre de français on utilise sans vraiment y réfléchir. Ça, c'est très, très important. Donc là, la conversation commence par... je vais mettre comme ça, voilà. Donc elle me dit... Ça, c'est mon amie. Elle me dit « Merci beaucoup pour ce cadeau ». Donc ça, par exemple, c'est une formule à retenir. Si vous voulez remercier quelqu'un, vous pouvez dire « Merci pour », par exemple, « Merci pour cette invitation »,« Merci pour ce séjour »,« Merci pour les fleurs », ce genre de choses. C'est vraiment le genre de structure que vous pouvez mémoriser parce que ça sert toujours. Et en général, quand on veut remercier, c'est beaucoup plus facile de savoir exactement ce qu'on va dire plutôt que d'avoir à réfléchir. Sont des structures du quotidien. Donc, la petite conversation, elle me dit « Bonjour pour ce cadeau. J'ai d'abord cru que c'était, donc là, c'est son mari, j'ai enlevé le nom, qu'il avait commandé pour moi et donc j'étais légèrement offensée, genre « Mais c'est toi qui dois ramasser la chaussette sale qui traîne. » En fait, ça fait vraiment plus sens que ça vienne de toi, la bise. Et moi, j'ai répondu « Contente que ça te plaise. J'ai adoré ce bouquin. Toutes mes copines le lisent. » Donc, je lui ai offert un livre sur la charge mentale. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est le fait d'avoir à penser à l'organisation au quotidien. Et c'est un livre féministe que j'avais bien aimé et je lui ai envoyé. Donc, c'est ça le contexte. Peu importe le contexte, c'est pour vous dire de quoi ça part. Donc, merci beaucoup pour ce cadeau. Là, on est sur une structure que vous comprenez. C'est vraiment le genre de choses que je vous invite à mémoriser, comme ça, vous n'avez pas à re-réfléchir à chaque fois. Donc, merci beaucoup pour, et après, vous rajoutez ce que vous voulez. J'ai souvent des élèves qui me disent « merci mille fois », c'est bien, mais c'est un petit peu formel, d'accord ? C'est un peu, on peut dire que c'est un petit peu old-fashioned, pas forcément, mais bon, voilà, en général, on dit « merci, merci beaucoup, ça suffit ». Vous pouvez dire merci mille fois, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va dire beaucoup, d'accord ? Donc, merci mille fois, en général, on dit rarement ça. Je vous l'écris pour que vous connaissiez les... alors, c'est bizarre ça. Tac. J'écris pour que vous sachiez comment ça s'écrit, d'accord ? Merci mille fois pour cette... invitation, d'accord ? Mais c'est quelque chose qu'on n'utilise pas beaucoup. En tout cas, on l'utilise beaucoup moins que ce que pensent mes élèves. Ce que pensent les élèves. Donc, j'ai d'abord cru. I first thought. Donc ici, on a le verbe croire. Croire, c'est to believe. Ça peut être croire à une religion, à un dieu, mais ça peut aussi I thought, d'accord? J'ai d'abord cru que. Donc ici, d'abord, c'est first. Ça, c'est quelque chose qu'à votre niveau, vous pouvez utiliser, d'accord? Par exemple, il faut verser, qu'est-ce qu'on peut dire? Le lait, d'abord. Sinon, ta recette ne marchera pas, d'accord? Ça, c'est quelque chose où vous pouvez aller creuser un petit peu si vous connaissez pas ça. Donc, d'abord, c'est first. D'accord? Donc là, elle aurait tout à fait pu dire « j'ai cru d'abord ». Mais elle a dit « j'ai d'abord cru ». D'accord? Parce qu'en fait, on peut mettre ce « d'abord » au milieu ou à la fin de la phrase. « J'ai d'abord cru que c'était » donc son mari. Enfin, on peut mettre « mon mari ». Qu'il l'avait commandé pour moi. On l'a déjà vu, commander, c'est to order. Ça peut être commander au restaurant, ça peut être commandé sur Amazon. C'est les deux, d'accord? Par exemple, j'ai commandé un thé au restaurant. Mais on peut aussi dire, j'ai commandé un livre. Je mets Amazon, mais évidemment, essayez d'utiliser les librairies du coin. C'est juste pour montrer que c'est une commande sur Internet. Et j'étais légèrement offensée. Donc, offensée, c'est vended. Offended. Genre, c'est là que je veux vous montrer. J'ai pris ça notamment pour ça. Alors, Steve demande, il faut verser ou il faut qu'on verse. Quand ce sont des... En fait, si tu dis « il faut qu'on verse », ça veut dire que tu es en train de faire la recette. Mais si tu dis « il faut verser le lait d'abord », ça peut être l'autre personne qui le fait. D'accord ? C'est juste l'instruction générale. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu dis « il faut qu'on verse », ça veut dire que tu es en train de faire la cuisine. D'accord ? So, if you say « il faut qu'on verse », you are including yourself in it. You're cooking with the person. Mais si tu dis « il faut verser le lait d'abord », it's a general instruction, you can be doing it or not, both works. Both work. Et donc, j'étais légèrement offensée, genre. Alors, ce genre, on l'a déjà vu. Je me souviens de vous l'avoir déjà expliqué. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très commun. Je dirais que la génération peut-être de mon père, donc c'est souvent c'est la génération de pas mal de mes élèves, ne l'utilisera peu. Mais c'est quelque chose à connaître. C'est vraiment l'équivalent du like en anglais, le like que plein de gens n'aiment pas. So I was kind of offended, like, but you should be getting the dirty laundry off the floor. D'accord? C'est vraiment cet équivalent-là en termes d'usage. Donc il y a des générations qui vont l'utiliser, des générations qui ne vont pas l'utiliser. Mais c'est important de comprendre sa structure. D'accord? Donc, ce n'est pas le genre de gender. C'est plutôt le genre de like or as if. Donc, en fait, on imagine quelque chose. Et c'est souvent suivi d'une citation. Parce qu'on imagine une situation. D'accord? Donc, ici, elle dit, j'étais légèrement offensée. So, I was slightly offended, like... Et après, elle fait une citation, d'accord? Donc, ça permet d'expliquer la situation. Mais c'est toi qui dois ramasser la chaussette sale qui traîne, en fait. Et là aussi, ce « en fait », en termes d'usage, il est très intéressant. Donc, « but it's you who should » ramasser, c'est « to pick up », d'accord? Ramasser. Donc, ça peut être ramasser dans plein de sens. Par exemple... j'ai ramassé le mouchoir sale par terre. D'accord? Ça veut dire I picked up the dirty handkerchief from the floor. D'accord? Mais on peut dire aussi les éboueurs ramassent les poubelles tous les mercredis. D'accord? Donc, c'est pick up les poubelles. Bon, vous savez ce que c'est? C'est bin ou trash can, selon là où vous habitez, tous les mercredis. Donc là, ce n'est pas pick up from the floor, c'est get, d'accord? Donc ça, c'est vraiment toutes les idées de ramasser, de prendre par terre. Mais on peut aussi dire, ouais, non, en général, c'est quelque chose qui est on the floor, d'accord? Je ne vais pas dire je vais ramasser mes livres dans la bibliothèque, ça ne marche pas. Donc, ramasser, c'est un verbe vraiment intéressant. Donc, c'est toi qui dois ramasser la chaussette sale qui traîne en fait. Donc, ce en fait, qu'est-ce qu'on peut donner comme traduction? C'est vrai, ouais, c'est in fact. C'est in fact. C'est that's the truth. Par exemple, en fait, je dois t'avouer que je déteste la ratatouille. D'accord? In fact, I have to confess that I hate ratatouille. D'accord? Marie demande, est-ce que tu peux donner un autre exemple avec genre? Oui, tout à fait. Alors, en fait, il faut se mettre dans une situation où on va l'utiliser. Alors, donc, il faut mettre un peu de contexte. Donc, par exemple, j'étais au magasin et là, le vendeur me regarde, genre, là, je ne vais pas mettre une citation. Si, on va, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Ou alors, on n'est pas obligé de mettre une citation quand j'y repense. Par exemple, je me promenais dans la rue et j'ai croisé un pote qui a fait genre, il m'avait. Donc là, on est en train d'aller sur du vocabulaire vraiment parlé, d'accord? Il faut pas... C'est vraiment difficile à écrire parce que c'est tellement spontané et à l'oral qu'il faut vraiment que je réfléchisse pour me mettre dans une situation où ça marche. Et ça me fait vraiment bizarre de l'écrire. Mais c'est intéressant parce que dans le langage Messenger, WhatsApp ou Signal, peu importe, en fait, on utilise énormément de français parlé et c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir ça à l'écrit. Alors que c'est surprenant, parce que sur un email long, par exemple, c'est rare que j'écrive ce genre de choses. Mais c'est important de comprendre. Donc, j'étais au magasin, et là, le vendeur me regarde, genre, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Donc, il faut imaginer qu'on est dans un magasin, il y a un vendeur qui vous regarde, et en fait, on va dire qu'il vous dévisage. On dit dévisager. Donc, ça veut dire regarder comme ça, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dévisager. Donc, me regarde, genre, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Donc, en fait, on est en train de projeter notre imagination sur l'attitude du vendeur. Donc, le vendeur se demande, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? D'accord? Donc, c'est ce qu'on pense que le vendeur imagine. Okay? So when I quote something, it is what the person is thinking, not what you are thinking when you are saying the sentence. Okay? Dans qui fait genre et en fait, est-ce que le T est silencieux? Alors attention parce que c'est complètement différent. Qui fait genre, donc c'est le verbe faire et là le T est silencieux, mais c'est dans fait que le T est entendu. En fait. Donc, dans « en fait », on le dit. Très bonne question, Steve. Ensuite, je me promenais dans la rue et j'ai croisé un pote qui fait genre « il ne m'avait pas vu ». Donc là aussi, il a fait semblant, d'accord? Il y a toujours une idée de faire semblant ou de « to act in a way ». je vais regarder sur World Reference ce que ça suggère. Parce que comme c'est une ressource collaborative, ils ont souvent des très bonnes idées. Donc, genre, à la base, ça veut dire gender, OK? Sort of. Voilà. Donc là, World Reference, ils sont d'accord avec moi, donc c'est bien. Ils disent like ou as if. Je vais vous mettre le lien parce que les exemples, ils sont bien et ils sont d'accord avec moi, donc ça, c'est cool. Donc, ils disent, voilà, c'est like ou as if. And this guy comes up and he's like 6.5 feet tall. Donc, il y a vraiment cette idée de like en anglais ou as if. Si on l'utilise tout seul, as if. Par exemple, là, l'exemple qu'il donne, il est bien, mais je vais en mettre un autre. Je parle russe couramment. J'ai appris en 2 semaines. Genre. Ça aussi, c'est vraiment un usage très classique. Donc, c'est as if. C'est vraiment ça. Faut pas trop réfléchir dessus. Donc, I speak Russian fluently. I learned in 2 weeks. Genre. Et vraiment, la traduction, c'est as if. Donc, il y a vraiment à nouveau, c'est vraiment du langage parlé. Et il faut imaginer la tête des gens. Ça, c'est vraiment clé pour comprendre ça. OK. Bon. Alors, ça vous fait déjà plein de trucs. Ça fait vraiment plus sens que ça vienne de toi. Alors attention, ça c'est important. C'est faire sens, c'est un anglicisme qui est arrivé récemment en français. Moi j'aime pas, mais je tolère que les gens l'utilisent parce que je décide pas de la langue française. Mais c'est une faute, d'accord? Faire sens, c'est un anglicisme, c'est make sense, d'accord? Faire sens. L'auteur demande, est-ce que ce n'est pas je l'ai appris en 2 semaines? Alors attends, il faut que... Je parle russe couramment, j'ai appris en 2 semaines. C'est hyper compliqué à t'expliquer. Non, je vais pas me secourir, je vais apprendre ça. Ah, c'est là que je sais que le fait que je ne connaisse pas la grammaire parfaitement, c'est hyper dur à expliquer. Je ne sais pas t'expliquer, mais c'est pas je l'ai appris en 2 semaines. Je parle russe couramment, je l'ai appris en 2 semaines. Tu pourrais dire, je parle russe couramment, je l'ai appris en 2 semaines. Mais en fait, là, on est sur du français parlé et ça sous-entend, j'ai appris en 2 semaines à parler russe. Et donc, on va enlever ce genre de choses. Je parle russe couramment. Tu vois, c'est pas en anglais, tu dirais, I speak French fluently, I learned in 2 weeks. Tu devrais peut-être dire, I speak French fluently, I learned it in 2 weeks. Mais des fois, tu vas enlever le it. Voilà. Je pense que c'est la meilleure, l'équivalent en fait. Parce qu'on en sous-entend, j'ai appris en 2 semaines à parler russe. Et voilà. Très bonne question. Mais je pense qu'il y a cet équivalent de l'enlever. Donc, genre, c'est asif. Donc à nouveau, là, c'est vraiment pas le genre de choses que, le genre, the kind of, le type de choses que je vous conseille d'utiliser parce que ça peut être bizarre. Mais c'est très intéressant de le comprendre parce que ça va être utilisé partout, partout, partout. Dans ce contexte, Lynn demande, est-ce que genre est plus utilisé que mon œil? Oui, parce que mon œil, tu peux... Alors ça, c'est une très bonne... Enfin, tout est une très bonne question. mais tu peux tout à fait dire mon œil à la place. Donc, très bonne suggestion. C'est juste que mon œil, on va l'utiliser, moi, en ce moment. Genre est plus à la mode. Mon œil est tout à fait compris. Mon œil n'est pas vraiment old-fashioned. Ce n'est pas démodé. C'est juste qu'on va beaucoup moins y penser parce que genre est très utilisé dans plein de contextes et que c'est un mot à la mode. D'accord ? Est-ce que les mots... Steve dit, est-ce que les mots sont différents pour l'anglais américain et l'anglais de Grande-Bretagne ? Je ne comprends pas ta question, Steve. J'aurais besoin de plus de détails. Kat demande, est-ce que faire sens, c'est logique ? Oui, oui, tout à fait. Alors, au lieu de faire sens, tu peux dire, c'est tout à fait sensé. Tu peux dire, c'est sensé de. D'accord ? Ou tu peux dire, c'est logique de. Que, enfin, pardon, que. C'est logique que. Oui, tout à fait. Excuse-moi, j'ai oublié de le préciser. Mais il vaut mieux remplacer par autre chose. Mais bon, ben, c'est la langue évolue avec son usage, toujours. Ce n'est pas la peine de dire que les gens qui l'utilisent sont stupides. C'est comme ça. C'est un anglicisme qui est en train d'arriver en français. Mais si tu veux utiliser des expressions qui existent déjà, tu peux dire c'est censé de ou c'est logique. Tout à fait. Donc, ça fait vraiment plus sens que ça vienne de toi. Tu peux dire c'est beaucoup plus logique que ça vienne de toi. Ou c'est beaucoup plus sensé que ça vienne de toi. Et elle signe la bise. À nouveau, ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est très commun et c'est une question d'usage. Il y a certains, moi je vais utiliser bisous en général. World reference is 18 stones. Oui, ben, écoute, je pense que tu peux utiliser kilos à la place. Ça ne changera pas le sens du mot ici, le sens de l'exemple. Oui, la personne sera peut-être plus légère. Donc là, elle va signer la bise. Donc, il y a des gens qui vont signer la bise, d'autres qui vont signer bisous, plein de bisous, à bientôt. C'est vraiment une question d'usage. Et ce que je fais en anglais, c'est qu'en général, je réponds la même chose. Comme ça, j'apprends des nouvelles choses et puis ça me permet de faire miroir aux réponses des gens. D'accord ? Donc, elle signe la bise. Et moi, après, je réponds « contente que ça te plaise ». Donc, « glad you liked it ». Ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Évidemment, si vous êtes un homme, vous allez utiliser « content ». D'accord ? Comme ça, « content » à la place de « contente ». « Que ça te plaise, glad you like it ». Et ça, c'est vraiment le genre de choses à votre niveau que vous pouvez avoir spontanément parce que pour remercier quelqu'un, pour accepter un compliment, avoir des choses toutes faites dans la tête, c'est plus simple. Donc, j'ai adoré, I loved, ce bouquin, c'est ce livre. Ça, c'est du vocabulaire, je regarde là, c'est du vocabulaire familier qui n'est pas vulgaire. Et qui est très utile parce qu'on va l'utiliser beaucoup, beaucoup pour parler des livres. Donc, un bouquin, c'est un livre. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on appelle souvent un homme qui vend des livres au bord de la Seine ? Vous savez, les livres d'occasion. Vous savez forcément. Bouquiniste, dit Lynn, tout à fait. Donc, je vais le mettre au singulier pour que ce soit plus facile à apprendre. Donc, un bouquiniste, c'est quelqu'un qui vend des livres. Alors, vous connaissez probablement ceux qui sont à Paris, en bord de Seine, avec les... Je crois qu'il y a Quai des Grands Augustins, il y a d'autres endroits, et ils ont des grandes boîtes vertes avec des cadenas. Après, il y en a dans d'autres villes de France, évidemment, et surtout, il y a des magasins de bouquinistes. Mais quand on dit les bouquinistes en général, on a l'image des bouquinistes à Paris, sur les quais de Seine. Alors, je ne vais pas continuer parce que je voudrais corriger les devoirs, mais si ça vous intéresse, on peut faire la suite la prochaine fois. D'accord ? Il y a des petits trucs comme ça qui ne sont pas forcément faciles à identifier si vous ne parlez pas la langue. Voilà, vous pouvez me dire dans le chat si ça vous intéresse qu'on fasse la suite la prochaine fois. Je ne vais pas mettre de devoirs, comme ça on aura le temps d'aller en profondeur sur le sujet. correction des devoirs. Donc, parle-moi d'un livre que tu aimes en français en 5 lignes. Et après, il y avait des questions. Je vais d'abord répondre aux questions, comme ça, je suis sûre d'avoir le temps de vous expliquer parce que. Voilà. Donc, Kelly demande, lorsque l'on écrit en cursive, donc avec un crayon, un stylo, pas un ordinateur, écrit-on le mot entier et ensuite on ajoute les marques d'accentuation, ou est-ce que l'on écrit chaque lettre avec son accent? Comment les enfants français apprennent-ils l'écriture cursive? Alors, on apprend au CP ou avant, donc à l'école maternelle. Donc, l'école maternelle, c'est... Je sais pas, il y en a qui appellent ça preschool et d'autres c'est kindergarten. Je ne sais jamais trop ce que vous utilisez comme mot. Donc, c'est l'école maternelle et ensuite, c'est le CP. Donc, le CP, c'est le cours préparatoire. Là aussi, on adore avoir des mots compliqués. Au lieu d'avoir first grade, second grade, etc., on a des mots ultra compliqués pour les classes. Donc, le CP, c'est le cours préparatoire. C'est l'entrée en école primaire. Donc, premier niveau de l'école primaire. Les enfants y entrent, je crois que c'est 6 ans, 5-6 ans. Et c'est là qu'on a l'année où on va apprendre vraiment à écrire et à lire. Il y a beaucoup d'élèves qui savent déjà lire, déjà un peu écrire avant parce que les parents sont impliqués ou parce qu'ils sont intéressés. Mais le cours préparatoire, le CP, c'est vraiment le niveau important au début de la vie des enfants. Ou alors l'école maternelle, ça c'est avant. Donc, comment les enfants français apprennent-ils à écrire en cursive? En général, ils apprennent en copiant des lettres avec ils apprennent la forme en faisant des coloriages. C'est surtout des jeux au début. Et après, on apprend à écrire. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais moi, j'ai recommencé à faire ça. On a un papier spécial qui est comme ça. Et ça s'appelle CIS. Ouais, je ne pense pas qu'il y ait une traduction. Le mot n'existe même pas. Donc, papier CIS, c'est ces grands carreaux. On appelle ça le papier à grands carreaux. Ça permet d'apprendre à bien écrire toutes les lettres. Alors, papier CIS. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, c'est comme ça. Donc, en fait, ça apprend à écrire. Alors, graph paper, je ne sais pas. Sachant que c'est plutôt ça. Voilà. Donc, c'est à ça que ça ressemble, le papier avec lequel on apprend à écrire. Sachant qu'il y a encore des papiers plus simples. Bon, vous avez vu en quoi ça consiste. Je vais vous... Apprentissage, écriture... Voilà, petite section. Je vais vous montrer un autre papier. Voilà, donc vous voyez, en fait, c'est assez similaire. Ils vont apprendre à écrire à la main avec ce genre de choses et aussi avec les petites lettres. L'écriture, c'est vraiment très important. Voilà, là, vous avez des exemples. Ici. C'est vraiment quelque chose sur lequel on se focalise beaucoup. Alors, certains disent qu'on se focalise trop en France là-dessus. Je suis pas pédagogue, donc je suis pas dans la pédagogie, dans la science de ça, donc je ne sais pas. Mais je sais qu'en France, on a vraiment encore cette écriture à la main qui est très importante avec la cursive. Et après, on n'utilise pas des lettres détachées comme vous. C'est vraiment, comme parfois aux États-Unis, j'ai vu. C'est vraiment, on écrit ensemble. Et moi, d'ailleurs, j'écris tout. Comme ça, enfin, c'est mon écriture par défaut pour tout. Voilà, je vois ma liste de courses. Et surtout, enfin, c'est un cahier de travail, donc je vois tous les trucs que j'ai à faire aujourd'hui. J'écris toujours, toujours comme ça. Alors, wide ruled ou college ruled? Alors ça, je ne sais pas. Ça doit être des types de papiers. Et on a aussi d'autres papiers. Alors, la question sur les accents. Je vais écrire quelque chose comme ça, je vais voir comment je fais. Copier les tâche. Ça dépend, en fait. J'ai écrit. Il est allé jouer. Oui, alors, je viens de le faire, donc j'écrirai comme ça, donc élève, et après je reviens en arrière. Donc après j'écris comme ça, et après j'écris comme ça. Donc en fait, quand j'écris, j'écris en cursive, et après je mets les accents à l'envers. Enfin, je retourne dans l'autre sens. Voilà, c'est comme ça que je fais. Ouais, c'est comme ça. Après, tout le monde ne le fait peut-être pas. En fait, le truc, c'est que si on s'arrête, si j'écris E, puis E, puis élève comme ça, je rajoute l'accent. En fait, à chaque lettre, il faut que je m'arrête pour mettre l'accent. Donc, ce que je fais, c'est que j'écris tout le mot et après, je reviens en arrière et je mets l'accent sur le mot et je passe à un autre mot. Voilà, c'est comme ça que je fais. Sinon, en fait, tu t'arrêtes entre chaque lettre et du coup, tes mots, ils ne sont pas bien liés. D'accord? Est-ce que ça répond à ta question? Me suis jamais posé la question, tu vois. Écriture cursive. Ouais. Voilà. En fait, ce qui est vraiment important, c'est que les lettres soient liées. Donc, si tu t'arrêtes, en fait, l'écriture ne sera jamais liée. Voilà. Donc, tu vois, il y a des conversations sur pourquoi il faut la remettre, pourquoi il faut l'enlever. Je n'ai pas d'avis dessus. Voilà. Je ne sais pas. Alors, Lynn dit, j'apprécierais des conseils à propos de l'utilisation des mots de locution. Par exemple, ainsi que, tant que, lorsque, lors de. Tant que, tandis que. J'aimerais incorporer ces mots dans mon français parlé et écrit. Alors, c'est une très bonne suggestion. Mais quand tu dis du français parlé, il y a beaucoup de choses qui sont très, très formelles ici. Steve dit, où se trouvent les devoirs pour la prochaine leçon? Pour l'instant, il n'y a pas de devoir parce que la prochaine leçon, c'est la semaine prochaine. Et si je veux prendre le temps d'explorer un sujet, je veux éventuellement finir de corriger les devoirs de cette fois. Donc, next week, there's no homework for once. J'apprécierais les conseils. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut étudier ensemble. Pour ce genre de choses, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, qui est vraiment important pour toi, ce qui est une très bonne chose, ça paraît horrible ce que je vais dire, mais regarde dans un dictionnaire et regarde en World Reference. Ça te permettra d'avoir des exemples. Parce que moi, je ne vais pas pouvoir t'enseigner beaucoup plus que juste t'enseigner les choses qui sont dans ma grammaire. Donc, on peut faire une leçon là-dessus, c'est très très bien. C'est juste qu'en fait, il n'y a pas un usage très spécifique. D'accord? Il y a juste une traduction et après, il suffit de les utiliser. Par exemple, je vais inviter sa sœur ainsi que sa mère à déjeuner. D'accord? C'est as well as en fait. Donc une fois que tu sais que c'est as well as, en anglais, la structure est exactement la même. Je vais inviter sa sœur, I'm going to invite his sister, ainsi que as well as sa mère à déjeuner, his mother for lunch. Tu vois, il n'y a pas de. C'est souvent beaucoup moins compliqué que vous croyez, c'est ça le truc. Par exemple, tant que tu habiteras chez moi, on va plutôt mettre au présent. Tant que tu habites chez moi, tu fais ta vaisselle. Donc, tant que, c'est as long as. Donc, par exemple, as long as you live in my home, you have to wash your dishes. Donc, tant que, c'est, voilà, c'est as long as. Il y a peut-être d'autres significations, mais une fois que vous avez la traduction en anglais, c'est des choses qui sont assez simples à utiliser. Tant que, voilà, as long as, for as long as, while. Voilà, vous voyez, là, sur Word Reference, en fait, tant qu'il y a une seule traduction. Donc, une fois que vous avez la traduction, vous pouvez l'utiliser. Lorsque, par exemple, ferme la porte lorsque tu sors. Ferme ta porte lorsque tu sors. Ferme, close the door when you leave. D'accord? Lors de, c'est when or during. Par exemple, il s'est cassé la jambe lors d'une randonnée. Donc, lors de, c'est during. He broke his leg during a walk, enfin, a hike. Tant de, c'est so many. Par exemple, j'ai vu tant de films que j'ai les yeux qui piquent. I saw so many movies that my eyes hurt. Et tandis que, c'est while. Il est parti tandis ou ça peut être aussi une opposition, tandis que je faisais la vaisselle. Mais ça peut être aussi il est fort tandis que son avec un S, tandis que son frère est intelligent. D'accord ? Donc, ça peut être aussi une opposition. Tandis que je faisais la vaisselle. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est une très bonne question, mais c'est aussi, je te rassure, c'est quelque chose d'assez simple à utiliser. Oh là là, la vaisselle. C'est quelque chose de beaucoup plus simple à utiliser que tu crois. Donc, c'est une bonne chose parce que si tu veux les utiliser, tu peux. Tu regardes juste la traduction. Et après, tu peux l'utiliser parce que les structures sont très, très similaires. C'est beaucoup plus facile d'utiliser ça que d'utiliser quand même ou genre ou au fait parfois aussi. D'accord ? Qu'est-ce qu'on disait la dernière fois ? Ouais, c'était quand même. D'accord ? Donc, c'est bien. OK. Et là, je vais finir sur le... Ouais, j'ai encore un peu de temps pour la question de Marie. Donc, Mary dit, salut Géraldine, est-ce que tu pourrais nous expliquer l'usage du pronom « on » au lieu de « nous » ? Oui, c'est très simple, c'est qu'en fait, au lieu d'utiliser « nous », on utilise « on ». Est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé récemment ? J'ai habité en France en 74-75, je suis allée voir mes cousins en Alsace beaucoup de fois, mais je n'ai jamais aucune mémoire de ça. Si on emploie « on » comme sujet, quel pronom possessif employer ? Par exemple, comment dit-on « we are going in our car » ? Janet dit, pourquoi est la vaisselle singulier ? Dishes in English is plural. Très bonne question. C'est comme ça. On dit la vaisselle. On dit faire la vaisselle. On peut dire acheter de la vaisselle. D'accord ? Donc, la vaisselle, ça peut être aussi all the dishes that you have. D'accord ? Par exemple, I sold my mother's dishes, old dishes. J'ai vendu la vaisselle de ma mère. D'accord, c'est vraiment plates and cutlery et tout ça. En fait, on dit la vaisselle, c'est tout. Nous, on dit les meubles et vous dites furniture. C'est exactement la même chose, c'est l'inverse. Lothar dit, je suis née à Heidelberg. Peut-être que vous vous êtes connue avec Mary. C'est ça qui est fou. Alors, très bonne question. Alors, d'abord, quelque chose de très important. Ce n'est pas parce que vous ne vous en souvenez pas que ça n'existait pas. D'accord ? Ça, c'est très, très important. Parce que si vous ne connaissez pas l'usage, c'est très difficile de le repérer. J'ai beaucoup d'élèves qui me disent, par exemple, sur Drop the Null, la leçon qu'on fait demain sur YouTube, qui me disent « Ah, ben, j'avais jamais remarqué, et ça fait des années que je parle français ou des années que j'étudie le français. » Est-ce que c'est nouveau ? Non, ce n'est pas du tout nouveau. C'est juste qu'en fait, vous ne le saviez pas, donc c'est impossible de le remarquer. Est-ce que c'était utilisé en 1974 ? Je pense que oui, parce que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau comme genre ou d'autres usages un peu anglais. C'est un truc assez commun. Et surtout, ce n'est pas du tout vulgaire ou jeune, d'accord? Donc, quel que soit votre âge, si vous êtes vivant en ce moment, vous pouvez utiliser « on » à la place de « non ». Il y a des choses où je vous dis « non », parce que c'est « youth French » que même moi, je n'utiliserai pas. Par exemple, « genre », c'est un petit peu trop jeune probablement pour la plupart d'entre vous. Même pour moi, si je le, dans certains usages, je ne l'utiliserai pas. Mais ce « on » à la place de « nous », il est tout à fait utilisé, d'accord? Donc, ça, c'est déjà la base. Et après, je vais vous faire appel à vous dans le chat parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous avez pris plusieurs de mes cours, vous savez très bien comment ça s'utilise. Donc, par exemple, on va dans voiture. Qu'est-ce qu'on met comme possessif? Notre, très bien. En fait, on va utiliser exactement les possessifs de nous. Par exemple, aussi, s'il y a une réflexion. Par exemple, on nous a dit d'attendre ici. D'accord ? Donc là, c'est réflexif, c'est dire à quelqu'un. Donc, on nous a dit d'attendre ici. We were told to wait here. D'accord ? Donc là, on a « nous » encore. On nous a dit. Attention, ce n'est pas un pronom personnel. Hein. Donc, on va dans notre voiture. On a apporté nos draps. D'accord ? Donc là aussi, c'est pareil. Je crois que c'est tout, hein. Voilà, donc en fait, on utilise tous les pronoms qui vont avec nous. Ah, et aussi les accords, c'est ça que je voulais dire. J'y avais pensé quand j'ai préparé la leçon. On est allé au ciné, si vous êtes avec au moins un homme. Et si vous êtes que des femmes, on est allé au ciné. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, le participe passé, avec évidemment uniquement l'auxiliaire être, il doit s'accorder. Et il s'accorde en genre et en nombre avec on, et on définit plusieurs personnes. Attention, ce n'est pas un on générique, hein, d'accord ? C'est vraiment un on qui remplace un nous. Voilà. Donc, un, vous pouvez l'utiliser. Deux, c'est pas parce que vous l'avez pas entendu que ça n'existait pas, ça c'est très important. Et trois, ça s'accorde comme un nous, d'accord ? C'est juste le verbe qui va s'accorder comme on, mais tout le reste s'accorde comme nous. Voilà. Et il est 16h24. Patrick Bruel, Steve dit Patrick Bruel est un chanteur et acteur français, c'est juste, avec qui j'ai joué plusieurs fois au poker. Ça m'a. Oh, c'est fou ça ! J'aurais pas pensé, tu dois jouer très bien au poker. C'est un joueur de poker aussi très connu. Voici un lien vers une de ses vidéos. La vidéo est sur le passage et l'emploi du temps. Un de nos thèmes récents, tout à fait. Du coup, je vous ai mis le lien ici, vous pouvez aller regarder la vidéo. Donc, ça va être tout pour cette fois. La semaine prochaine, je voudrais corriger les devoirs. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui veulent soumettre des devoirs, on pourra corriger ça tout. On pourra tout corriger. Et si vous voulez, je peux vous suggérer des livres que j'ai lus cette année en français qui étaient vraiment super. Parce que je sais que pour beaucoup, lire, c'est très agréable en français, donc je peux vous en suggérer. Voilà, donc on va s'arrêter là. Il nous reste 5 minutes. Vous avez dû noter beaucoup de choses. Vous avez deux documents qui sont ici. Donc, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a marqué en particulier? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Comme ça me permet de revenir en arrière si vous avez des questions. Alors, Jack dit genre, tout à fait. Donc, genre, ça veut dire like ou as if, et vous avez vraiment un usage un peu similaire de l'anglais où il y a quelque chose de adolescent ou jeune pour parler un peu comme des jeunes. Faire sens. Attention, 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 parce que faire sens, c'est vraiment un anglicisme, mais ça existe. Dévisager, tout à fait. Donc, dévisager, c'est try to really look close at someone's face. Est-ce qu'on a une bonne traduction ici? Dévisager, c'est quoi? C'est stare at, voilà. Fix your gaze, eyeball. Donc, ce n'est pas du tout forcément quelque chose de positif. D'accord? Ça peut être positif si, par exemple, vous regardez quelqu'un, il m'a dévisagé et après, il m'a souri. Mais il y a vraiment l'idée de stare at someone. Merci mille fois est utilisé rarement, c'est ça. L'enseignement des langues aux États-Unis est vraiment terrible. Je suis désolée. L'éboueur, oui. Donc, un éboueur, c'est quelqu'un qui ramasse les poubelles. Merci mille fois. Être sensé, tout à fait. Donc, être sensé, c'est avoir du sens. Attention, ce n'est pas être sensé. C'est to be supposed to. C'était une bonne question au sujet de l'écriture cursive. Oui, merci. Ah, bonjour, Janet. Je n'avais pas vu que tu étais là. Oui, c'était une très bonne question sur l'écriture cursive et ce genre de questions, si vous en avez d'autres, allez-y. Ramasser, donc tout à fait, donc ramasser, c'est to pick up. Et d'ailleurs, on dit le ramassage scolaire. C'est the school bus. Vous voyez, on aime bien les mots compliqués. Donc, le ramassage scolaire, c'est tout le système qui va aller chercher les enfants par des bus pour les amener à l'école. D'accord, le ramassage scolaire, et en général, ce sont des choses qui sont spéciales, c'est des bus spéciaux. Si vous prenez un bus normal ou le métro pour aller à l'école, ça ne fait pas partie du ramassage scolaire. Le ramassage scolaire, c'est vraiment des bus spéciaux qui vont chercher les enfants. Comment vous allez traduire ça? Ramassage scolaire, exactement. School transport, voilà, c'est ça. Apprentissage, écriture, tout à fait. Un bouquin, c'est un livre. Nick me parle de doudou, de bobo, tout à fait. Ainsi que, tandis que, etc., très utile pour moi aussi. Oui, alors, tout ce que disait, c'était la question de qui ? C'était la question de Lynn. Donc, la question de Lynn, ça vous permet d'avoir des phrases qui sont plus structurées, d'accord ? Parce qu'on a une chose et une autre chose. Ferme la porte. Lorsque tu sors, tant que tu habites chez moi, tu fais ta vaisselle. Donc, c'est des très bonnes choses pour articuler ce que vous voulez dire, d'accord ? Et de façon claire. En plus, les usages sont assez simples, donc vous pouvez les utiliser. Après, par exemple, tant que tu habites chez moi, tu fais ta vaisselle ou ferme la porte lorsque tu sors, c'est un petit peu formel. Mais si vous voulez exprimer ça, c'est vraiment parfait. OK. Bouquin, livre, dodo, etc. Très, très bien. Donc, la prochaine fois, moi, je veux qu'on corrige les devoirs. Donc, les devoirs de la dernière fois, c'était de parler d'un livre qui vous plaît en 5 lignes. Je vous encourage fortement à faire les devoirs. Je parle un peu à tout le monde. Hein. Il y a qui ? Janet, ça fait un moment que tu n'as pas soumis des devoirs. Nick, Marie, je crois que tu avais soumis quelque chose aujourd'hui. Jack, Curtis... Allez-y, Shannon, Steve, soumettez des devoirs, ça vous permet de vraiment travailler, de réfléchir aussi au français et ça me permet à moi aussi d'identifier des fautes qui sont utiles pour tout le monde, d'accord? There is no shame in making mistakes. Everybody's here to learn. It's a safe space and I am at your disposal to answer your questions and correct your mistakes so you don't make them or don't feel stressed by them. Donc, la prochaine fois, on va corriger les devoirs et je vais aussi vous parler un peu d'autres livres qui m'ont beaucoup plu. Si ça vous intéresse, on peut aller plus en profondeur. OK ? Et à nouveau, s'il y a des sujets en particulier qui vous intéressent, dites-le. D'accord ? Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour certains, une bonne nuit. Demain, on fait une leçon sur YouTube sur le Drop the Nut. Donc, vous savez probablement déjà comment ça fonctionne, mais ça m'intéresse beaucoup que vous me donniez votre avis sur le format. Parce qu'on essaie des nouvelles choses. Je sais qu'avec le 30 Day Challenge, The Repeat After Me, où je donne vraiment des détails sur la prononciation, ça a bien marché. Donc voilà, j'essaie des nouvelles choses et c'est sympa. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne continuation, bonne semaine, bon courage selon là où vous êtes. Il y en a qui sont en confinement, d'autres qui sont en couvre-feu, d'autres c'est pas le cas. Je sais qu'il se passe des choses en Écosse aussi. Et voilà. Bon courage, à la semaine prochaine. C'est toujours une grande, grande joie de faire des cours avec vous. Et envoyez-moi vos idées pour les choses que vous voulez étudier. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut tout le monde!